Voilà, bonjour à tous. Nous sommes dans ce grand samedi saint, qui est un jour où il n'y a pas de texte particulier proposé par la liturgie en dehors de l'office des ténèbres, et où donc l'Église ne nous dit pas grand-chose sur ce qui se passe. Et dans les paroisses, en général, il n'y a pas grand-chose ce jour-là de proposé. Et pourtant, dans ce samedi saint, il y a énormément de choses qui se jouent. Et elles sont fondamentales, je dirais, pour nous. Et donc, il s'agit d'essayer d'y entrer à travers quand même ce qui est dit dans l'enseignement de l'Église sur Jésus, sur ce qui se passe avec le Christ ce jour-là. Et ce que l'on peut savoir aussi de ce qui se passe en Marie, le samedi saint. Alors, c'est ce que nous essaierons de faire. Et puis, comme nous sommes dans l'après-midi qui nous prépare à la vigile pascale, je dirai aussi un mot de la vigile pascale. Alors, en ce qui concerne le samedi saint, on peut dire que le drame de ce jour, c'est que, apparemment, le mal a triomphé. Satan est vainqueur. Il a réussi à faire que le peuple d'Israël rejette son Messie, que les Romains le mettent à mort. Il a réussi à disperser les disciples. Il a réussi à faire renier Pierre, à faire trahir Judas. Apparemment, tout est fini. Apparemment, Dieu est mort. C'est la nuit. Et pourtant, au cœur de cette nuit, il y a encore une lueur de foi, d'amour, d'espérance. C'est le cœur de Marie, le dernier rempart que Dieu oppose au mal. Et puis, au-delà même du visible, il y a déjà la descente de Jésus aux enfers, qui, dans la tradition orientale notamment, est comme déjà l'expression de la victoire pascale du Christ. Alors nous allons essayer de méditer sur ce samedi saint en voyant comment se répondent l'action de Jésus qui descend aux enfers et celle de Marie qui veille dans la foi et l'espérance sur la terre, un peu comme le bien-aimé et la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Tout d'abord, Jésus. Jésus, en ce jour, est vraiment mort. Son corps repose au tombeau. Après avoir accompli la grande œuvre de notre rédemption, Jésus s'est endormi sur la croix. Et j'aime à imaginer que lorsque il a remis son dernier souffle en disant « Tout est accompli », Jésus est entré dans une immense paix. La paix d'avoir accompli jusqu'au bout l'œuvre du Père, l'œuvre de la rédemption. Et en ce jour du samedi saint, son corps repose comme pour signifier ce repos du Shabbat dans le sixième jour de la création et dans l'attente du huitième jour que sera le jour de la recréation, le jour de la résurrection. Jésus repose comme pour signifier que c'est Dieu seul qui peut achever ce travail qui lui a été confié de la rédemption de l'homme. Peut-être aussi pour signifier que la vocation véritable de l'homme, c'est de reposer en Dieu, comme Dieu veut reposer en lui. Mais que ce don de cette communion à avec Dieu ne peut le recevoir que de Dieu lui-même. Il ne peut pas se le donner à lui-même. Il ne peut l'accueillir que comme une grâce, comme un surcroît qui lui est donné par le Père. Et donc le corps de Jésus repose au tombeau. Jésus est vraiment mort, son âme s'est vraiment séparée de son corps. Mais pourtant, dans cette mort, Jésus introduit une nouveauté radicale. Car son corps, même séparé de son âme, reste uni à sa personne divine, au Verbe. Et en cela, il est un corps qui est habité, j'allais dire, par une puissance de vie indestructible, par la nouveauté de cette unité dans sa personne divine, avec sa divinité. Jean, dans son évangile, dit qu'après la crucifixion de Jésus, il a été déposé dans un jardin, dans un tombeau neuf. L'image du jardin, évidemment, comme d'ailleurs au début du récit de la Passion, nous renvoie au jardin des origines. Comme pour dire que Jésus est le nouvel Adam, le jardinier de la nouvelle création, de la recréation. Une création renouvelée, d'une paix retrouvée, d'une réconciliation donnée à l'homme qui est rendu à sa vocation d'être le jardinier de la création. De retrouver dans le Christ mort et ressuscité l'image et la ressemblance de son Créateur. Alors voilà ce que Origène dit à propos de ce passage. Comme toujours chez les Pères, c'était ces intuitions fulgurantes qui sont exprimées dans des commentaires parfois très courts. Il fallait qu'il fût dans un tombeau neuf, celui qui ne fut pas semblable aux autres morts, mais qui, dans l'état de mort, montra des signes de vie, le sang et l'eau, et fut, pour le nommer ainsi, un mort neuf. Saint Irénée disait que Jésus a apporté toute nouveauté en s'apportant lui-même. Et il a revêtu de cette nouveauté toute chose, y compris notre propre mort. En habitant notre mort, il vient lui donner un sens nouveau. Lui donner le sens d'un repos, d'un accomplissement. Et en même temps d'une attente de ce huitième jour qui sera le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, le jour de la nouveauté absolue. Alors je voudrais citer des passages du catéchisme sur ce point, ils sont très beaux, je vous renvoie au catéchisme sur la mort de Jésus, 624, par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il a goûté la mort. Dans son dessein de salut, Dieu a disposé que son Fils non seulement mourrait pour nos péchés, mais aussi qu'il goûterait la mort, c'est-à-dire connaîtrait l'état de mort, l'état de séparation entre son âme et son corps, durant le temps compris entre le moment où il a expiré sur la croix et le moment où il est ressuscité. C'est le mystère du Samedi Saint, où le Christ déposé au tombeau manifeste le grand repos sabbatique de Dieu, après l'accomplissement du salut des hommes qui met en paix l'univers entier. Ensuite, il est dit, le séjour du Christ au tombeau constitue le lien réel entre l'état passible du Christ avant Pâques et son état actuel glorieux de ressuscité. Dieu, le Fils, n'a pas empêché la mort de séparer l'âme du corps, selon l'ordre nécessaire à la nature, mais il les a de nouveau réunis l'un à l'autre par la résurrection, afin d'être lui-même dans sa personne le point de rencontre de la mort et de la vie, en arrêtant en lui la décomposition de la nature produite par la mort et en devenant lui-même principe de réunion pour les parties séparées. La personne du Verbe, en étant unie au corps de Jésus, qui repose au tombeau, va être le principe de la réunion de ce corps avec son âme dans la résurrection. Et en même temps, elle est aussi le principe du fait que ce corps ne peut pas se décomposer, qu'il n'est pas soumis à la corruption, qu'il est vraiment comme un corps neuf, habité par Dieu. Et ainsi, on le voit dans sa mission, Jésus ne s'est pas contenté de visiter nos souffrances, nos faiblesses, nos fragilités et même notre péché, mais il a voulu aussi visiter notre mort pour que dans sa mort soit aussi guérie notre mort. Donc le Verbe maintient son corps qui repose au tombeau dans son état d'intégrité. Il ne permet pas qu'il soit soumis à la corruption. C'est ce qui dit au numéro 627 du catéchisme. À cause de l'union que la personne du Fils a gardée avec son corps, il n'est pas devenu une dépouille mortelle comme les autres. Car la vertu divine a préservé le corps du Christ de la corruption. Du Christ, on peut dire à la fois, il a été retranché de la terre du vivant, et ma chair reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme aux enfers et ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Vous vous rappelez dans l'histoire de Lazare, Lazare, au moment où Jésus l'a ressuscité, était dans un état de décomposition, le quatrième jour. C'était le jour, précisément, selon la coutume juive, bien, le corps était censé être impur, était censé se décomposer. Et Jésus est ressuscité le troisième jour. Donc, avant ce fameux quatrième jour de la tradition juive, ce qui manifeste que son corps a été préservé de cette décomposition, mais il y a une raison de plus, c'est que son corps était uni à sa personne divine et qu'en tant que tel, il ne pouvait pas se décomposer. Et donc, c'est un corps neuf qui est au tombeau aujourd'hui, qui anticipe sur sa résurrection et sur la nôtre. Un peu comme, vous savez, ce corps des saints qui sont restés intacts, le corps de Bernadette à Nevers, le corps de Catherine Labouré à Paris. C'est extraordinaire. C'est comme si c'était déjà habité par cet esprit qui fait que le corps ne peut plus connaître la corruption. Alors, dans cette mise au tombeau du corps du Christ, il y a aussi pour nous une image qui est celle de notre propre mise au tombeau aujourd'hui. Nous aussi, nous allons être ensevelis. Ce soir, nous allons renouveler nos engagements de baptême. Il y aura des catéchumènes qui seront baptisés. Ces catéchumènes vont être plongés dans l'eau, mis au tombeau avec le Christ. Et nous qui allons renouveler nos engagements de baptême, nous aussi, nous serons plongés dans la mort du Christ. Le vieil homme, aujourd'hui, doit être enseveli. Le vieil homme que nous étions en naissant, le vieillard. Nous sommes nés comme des vieillards et nous devons mourir comme des petits-enfants. Les petits-enfants que nous n'avons jamais été. Les petits-enfants détournés d'eux-mêmes, décentrés d'eux-mêmes, pour être recentrés sur Dieu et sur leurs frères. Passer du tout à l'ego au tout à l'époux. C'est beau, c'est profond. C'est ça, la mort et la résurrection qui nous est proposée. Mourir au tout à l'ego pour renaître à l'enfant dans cette nuit de Pâques. La résurrection, c'est une renaissance, une nouvelle naissance. Et donc, il nous faut aussi mourir pour pouvoir ressusciter. Ce soir, donc, nous allons le vivre et ce samedi saint nous rappelle que notre baptême est vraiment une plongée dans la mort du Christ, mais c'est une mort vivifiante, une mort qui nous renouvelle dans la vraie vie, qui est la vie de Dieu, qui est la vie de Jésus. Le drame de nos premiers parents, c'est d'avoir refusé, sur l'instigation de Satan, d'entrer dans cette vocation d'enfant de Dieu. Voyez, qui est celle du Christ lui-même, le Fils bien-aimé du Père, qui est tourné vers le sein du Père, qui se reçoit éternellement du Père et qui se donne au Père, hein, dans un acte éternel d'action de grâce et d'amour. Et nous, nous avons voulu nous construire par nous-mêmes et contre Dieu. Et c'est ça qui fait que nous sommes devenus des vieillards, soumis à la caducité de la mort. Hein, Dieu voulait nous épargner la mort. C'est nous qui nous sommes donné la mort à cause de la tentation, de l'orgueil, de l'indépendance, de l'autonomie, de vouloir être des grands, alors que Dieu voulait nous presser sur son cœur. Mais dans la grâce de notre baptême, nous est rendue cette vocation filiale d'émerveillement, de petits enfants. Voyez, moi je me dis que au fond, on n'a pas assez de toute une vie pour apprendre à dire le seul mot qui compte en fait, mais que nous prenons parfois 90 ans à apprendre à le dire, c'est le mot de papa. Apprendre à dire papa à Dieu. Parfois il faut 90 ans. Vous voyez, la petite Thérèse, c'est un mois et demi avant sa mort qu'elle emploie pour la première fois le mot de papa. Si vous me trouviez morte un matin, sans qu'on ait pu me donner les sacrements, ne vous inquiétez pas. C'est que papa, le bon Dieu, serait venu me chercher. C'est vrai que c'est une grande grâce de recevoir les sacrements, mais tout est grâce. Voyez, elle vit à ce moment-là une espèce d'agonie. Elle est dans la nuit de la foi, elle souffre terriblement de la tuberculose, et c'est la première fois qu'elle appelle Dieu papa, comme Jésus dans son agonie. Abba, papa. Et pour justement entrer dans cette vie filiale, la vie d'enfant de Dieu, il faut passer par une mort. Ce qu'on appelle la nuit de l'esprit, vous savez, dans la tradition du Carmel. La mort du vieil homme, la mort de l'ego. Mais pour renaître à la vie de Dieu, c'est la résurrection. C'est un peu, il y a un peu de ça dans ce samedi saint. Vous voyez, cette mort, mais pour une renaissance. Et puis, pendant ce moment où son corps repose au tombeau, eh bien, l'âme de Jésus descend aux enfers. Ceci est attesté par un certain nombre de textes de l'Écriture, mais aussi par l'enseignement de l'Église. Jésus est demeuré dans le séjour des morts, numéro 632 du catéchisme. Jésus a connu la mort comme tous les hommes et les a rejoints par son âme au séjour des morts. Quand on parle des enfers, c'est ce que la tradition juive appelait le Sheol, hein, ou l'Hadès, ce n'est pas l'enfer des damnés. Hein, c'est le lieu où attendaient les justes de l'ancien temps qui n'avaient pas encore vu le Christ qui attendait son jour et le jour de leur délivrance. Et nous aurons tout à l'heure dans l'office du samedi saint une très belle évocation dans une homélie de je ne sais plus qui, de cette descente de Jésus en enfer pour aller délivrer les justes qui attendaient sa venue, et en particulier Adam, notre père Adam. Et donc, le dit le catéchisme, Jésus est descendu en sauveur aux enfers, proclamant la bonne nouvelle aux esprits qui étaient détenus. C'est bouleversant, hein, de se dire que Jésus a voulu évangéliser toute la création, même les morts. Et le catéchisme note que la bonne nouvelle a été annoncée aux morts, la descente aux enfers et l'accomplissement jusqu'à la plénitude de l'annonce évangélique du salut. Elle est la phase ultime de la mission messianique de Jésus, phase condensée dans le temps, mais immensément vaste dans sa signification réelle, d'extension de l'œuvre rédemptrice à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Tous les hommes n'auront pas eu la chance de connaître Jésus de leur vivant. Mais ce qui est sûr, c'est que tous soient amenés à le rencontrer à un moment ou à un autre. Le concile dit que Dieu donne à tous les hommes par son esprit, d'une façon que lui connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal du Christ. Et il nous est dit aussi qu'au moment de notre mort, il y aura ce qu'on appelle le jugement particulier, qui fait que notre vie tout entière sera référée au Christ et à sa charité. Alors, de quelle manière cela va-t-il se faire, nous ne savons pas très bien. Mais il se peut qu'il y ait, notamment pour ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître Jésus sur la terre, comme, vous voyez, une espèce de rencontre avec le Christ, on ne sait pas trop comment. mais au moment de la mort, qui permettent cet ultime acquiescement, vous voyez, à son amour miséricordieux. On n'en sait rien, ça n'est pas dit de façon aussi claire que ça dans le catéchisme, mais ce qui est dit quand même, c'est que la descente de Jésus aux enfers signifie par là la volonté du Christ d'annoncer l'évangile à tous, y compris ceux qui n'ont pas eu la possibilité de le connaître sur la terre. Les justes, les cultures d'Afrique, d'Asie, voyez, qui ont été évangélisés que très récemment, ou pas du tout été évangélisés. Bien, mystérieusement, Dieu veut leur assurer aussi la possibilité de se situer par rapport à son Fils, d'une façon que lui connaît. Et donc, il y a une immense espérance. Alors, je dirais, dans ce samedi saint, c'est vraiment le salut qui se propage, et nous avons à le désirer aussi, nous aussi, voyez, que ce salut du Christ rejoigne tous les hommes, et en particulier tous les morts, tous nos morts. C'est vraiment l'occasion aujourd'hui de prier pour nos morts, pour tous ceux qui sont au purgatoire, pour que Dieu puisse les visiter et les libérer en ce jour, pour offrir des indulgences plénières, etc. Le chapelet de la miséricorde. Et puis, désirer que tous les hommes puissent rencontrer le Christ. Voyez, ce désir missionnaire pour tous les hommes, de tous les temps et de notre temps en particulier. Et donc, ça c'est le mystère de la descente aux enfers, mais c'est un mystère très caché, qui se situe dans l'invisible. Sur la terre, apparemment, il ne se passe rien. Mais, nous dit l'Église, en ce jour, c'est Marie qui porte la foi de toute l'Église, au nom de toute l'Église, au nom de toute l'humanité. Au moment où le groupe des disciples est dispersé, elle seule reste ferme dans sa foi. Mais elle souffre. Mais elle souffre. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le cœur de Marie en ce jour. Ce qui est certain, c'est qu'elle est restée dans la foi, l'espérance et la charité. Mais il semble quand même qu'on doive penser qu'elle a porté extrêmement douloureusement cette séparation avec son fils, même si elle n'a pas douté qu'un jour il puisse ressusciter. Mais cette séparation avec Jésus a dû être quelque chose de terrible dans le cœur de Marie. C'est vrai que durant la vie publique de Jésus, elle est restée toujours aux côtés de son fils, de façon discrète, mais présente. Et surtout au moment où il en a eu le plus besoin, c'est-à-dire à la croix, où par son attitude courageuse au pied de la croix, elle a aidé Jésus à aller jusqu'au bout de son sacrifice. Un petit peu comme, vous savez, cette mère des sept enfants, dans le livre des Maccabées, qui exhorte ses fils à aller jusqu'au bout du temps de leur vie pour Dieu, et qui les aide à devenir tous des témoins de la foi juive face à la persécution. Et donc Marie a tenu bon à cause de son amour justement pour son fils. Mais on peut supposer que quand Jésus a été descendu de la croix, bien, elle a dû vivre extrêmement douloureusement cette séparation. Un peu comme ça se voit, vous savez, quand des personnes, notamment des femmes, ont accompagné quelqu'un dans la maladie et jusque dans la mort, ben, après la mort, il y a comme une espèce de dépression, il y a une espèce de d'un coup. Quand on connaît le veuvage, quand on connaît bien, d'un coup, il y a cette souffrance de l'absence de l'autre. Et Marie a dû connaître cela dans son cœur immaculé. Elle a été vraiment broyée par le glaive de douleur. Et même si elle n'a pas douté, elle a dû être vraiment dans cette nuit de la foi. Cette nuit de la foi. Et on en a une petite évocation dans l'évangile de Luc, vous savez, au moment du recouvrement du temple. Donc Jésus est resté dans le temple, ses parents font route vers Nazareth pendant une journée, se rendent compte qu'il n'est pas là et le cherchent. Et quand ils le trouvent, au bout de 3 jours, donc évidemment c'est un symbole, eh bien, Marie dit à Jésus, « Mais pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, nous te cherchions tout embrassés. » Comment est-ce qu'on peut s'angoisser pour Dieu? Est-ce que ça vous arrive de vous angoisser pour Dieu? De vous angoisser pour Jésus? C'est incompréhensible. Elle savait qu'il était Dieu. Et pourtant, elle est angoissée de ne pas le trouver. Eh bien, cette angoisse, au fond, vous voyez, c'est l'angoisse qui est liée à la séparation. Comme cette espèce de nuit de la foire, quand on cherche Dieu, mais on ne le voit plus, on ne le sent plus. Hein, où est-il, le bien-aimé? Hein, comme la bien-aimée qui cherche son bien-aimé dans le cantique, dans la nuit. Hein, qui est comme l'écho, et cette quête par Marie de Jésus, c'est comme l'écho de l'agonie de Jésus, le jeudi saint, Jésus qui cherche son Père. Hein, où es-tu, Père? S'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Hein. Jésus, tout Dieu qu'il était, a connu l'agonie, a connu le combat, voyez, de cette... Bien sûr, il avait la vision béatifique, dit-on, hein, dit la tradition de l'Église, et même le pape peut l'enseigner, à l'agonie, mais il a en même temps vécu mystérieusement cette déréliction totale, ce sentiment d'être totalement abandonné des hommes, et même, d'une certaine façon, de Dieu. Et Dieu lui a envoyé à ce moment-là l'ange de la consolation. Mais ce sentiment d'absence, voyez, qui crée l'angoisse. Et Marie a connu cela aussi. Elle est en tout unie à son fils. Et donc il y a une forme d'agonie peut-être aujourd'hui de Marie. Et c'est ça qui est bouleversant, c'est que Marie est la mère de miséricorde, hein, à qui nous les pécheurs nous sommes confiés. Voici ton fils. Hein. Au moment où elle perd son fils bien-aimé, son unique, le Fils de Dieu, lui sont donnés tous les pécheurs comme fils. Et Marie accepte dans sa miséricorde de nous considérer comme ses fils, nous qui avons transpercé son fils. Imaginez que un de vos enfants ait été mis à mort par des brigands et qu'avant de mourir, votre fils dit, ben voilà, ton fils maintenant, ce sera celui-là, ce brigand-là, prends-le comme ton fils. Pas sûr que vous accepteriez facilement cet échange. Mais Marie a accepté de nous considérer vraiment comme ses enfants. Mais ce qui est encore plus bouleversant, c'est que Jésus a confié Marie à Jean. Marie nous est confiée, à nous les pécheurs. Marie, en ce jour, a besoin de notre consolation. Elle, la mère de miséricorde, a besoin de la miséricorde de l'Église des pécheurs. C'est ça, je crois, ce qu'on appelle la réparation au cœur douloureux et immaculé de Marie, ce qui a été demandé à Fatima à travers la fête du cœur de Marie. Marie demande à l'Église des pécheurs consolation pour les souffrances de son cœur immaculé. Vous voyez, comme je disais hier à propos du Christ, hein, sur la croix, le miséricordieux demande miséricorde. Eh bien, aujourd'hui, la miséricordieuse demande miséricorde. Notre Mère. C'est pour ça qu'en ce jour, c'est important de prier avec Marie, de prier le chapelet, voyez, éventuellement le chapelet des sept douleurs, mais de consoler Marie. Dans la tradition de l'Église, vous avez le lundi saint, pardon, le lundi de Pâques, donc dans deux jours, il y a la célébration de Notre-Dame de Vie. Notre-Dame de Vie, c'est la mémoire de la visite que Jésus ressuscité aurait fait à sa mère, la première, qui n'est pas relatée par les évangiles. Et dans certaines révélations privées, notamment chez Thérèse Avila, elle dit que Jésus a dû longuement consoler sa mère, qui était tellement meurtrie par sa mort, qu'il a fallu que Jésus prenne beaucoup de temps pour consoler sa mère. Et on peut penser que déjà le samedi saint, Jean, hein, a été avec Marie, il l'a accueilli dans tous ses biens, corporel et spirituel, et que Jean a dû, en tenant compagnie à Marie, a dû pour une part un peu déjà la consoler. Et en même temps, vous voyez, ce qui est beau, c'est que tout en étant broyée par ce glaive de douleur, bien Marie, elle a espéré la résurrection de son fils. Elle est restée profondément dans l'espérance. Alors, voyez, à travers ce mystère du samedi saint, il nous dit quelque chose de notre foi chrétienne. Il y a dans notre foi chrétienne une part d'obscurité. Il y a quelque chose dans la foi chrétienne qui rejoint pour une part l'expérience du monde de l'athéisme. Le pape Benoît XVI disait dans un livre, le chrétien est pour l'athée une question sur son doute, comme l'athée pour le chrétien une question sur sa foi. C'est-à-dire qu'il y a une place dans la foi chrétienne pour l'athéisme, aussi bizarre que ça puisse paraître. Parce que de fait, Dieu, nous ne le voyons pas. Et il y a certains moments de la vie où il semble se cacher. La petite Thérèse a connu ça dans sa nuit de la foi quand elle a mangé à la table des pécheurs, où elle a cru comprendre de l'intérieur ce que pouvait ressentir le monde de l'athéisme. Mais inversement, nous les chrétiens, et Marie toute la première, sont pour les athées une question sur leur doute. Parce que cette nuit de la foi, elle n'est pas un découragement, ni un désespoir, comme peut l'être le désespoir de l'athéisme, qui souvent se pare des apparences, une espèce d'ironie souriante. Vous voyez, c'est effrayant des fois. Il y a eu un philosophe français actuel à la mode qui parlait de la perte, la fin de l'histoire. Vous voyez. Tout est fini, il n'y a plus aucun espoir. Il n'y a plus d'espérance avec un grand E, la grande espérance de la venue du Christ en gloire, l'espérance de la vie éternelle. Mais il n'y a plus non plus d'espérance avec un petit E, toutes les idéologies que l'homme a sécrétées pour remplacer la grande espérance chrétienne. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'histoire. Et il raconte tout ça avec un grand sourire. Vous voyez, c'est terrible le désespoir qui se cache en ironie souriante. Mais justement, la foi chrétienne, ce n'est pas ça. Au cœur de cette nuit, Marie a espéré tout. Elle n'était pas désespérée. Elle était profondément dans l'attente, dans le désir de la venue de son bien-aimé. Et en cela, elle est vraiment l'épouse du cantique. Viens, mon bien-aimé. Viens, mon bien-aimé, sors de la nuit, sors de ton tombeau. Et Marie, en ce jour, voyez, elle porte l'espérance de toute l'Église et même de toute l'humanité. Et c'est en quelque sorte cette espérance, ce désir de Marie qui va faire sortir Jésus du tombeau, comme le bien-aimé du cantique. Et voyez, ce soir, nous allons aller faire la grande vigile de Pâques avec des lampes allumées dans la nuit. Nous allons allumer ce feu. Et n'oublions pas que ce feu, cette procession avec des lampes allumées, elle nous rappelle que nous, les chrétiens, nous sommes un peuple en marche dans la nuit de ce monde. Mais nous attendons la venue de l'Époux. Nous attendons la venue du Christ. Nous espérons cette venue. Viens, Seigneur Jésus, viens. Et voyez, les premiers chrétiens, en fait, ils espéraient la venue imminente du Seigneur. Et tout spécialement lorsqu'ils célébraient l'Eucharistie, très souvent ils terminaient la célébration eucharistique par l'invocation Maranatha, qui est pratiquement la dernière invocation de la Bible. Et cela est vrai tout spécialement de la liturgie pascale. D'après des exégètes, on dit que le livre de l'Apocalypse, en fait, ce n'est que le dévoilement, la révélation de ce qui se passe au cours d'une liturgie judéo-chrétienne de la Pâque. C'est ce livre de l'Apocalypse qui commence par l'évocation de l'extase de Jean, le jour du Seigneur, donc le jour du dimanche, le jour où on célèbre l'Eucharistie, et qui se termine avec l'évocation de ce cri, « Maranatha, viens Seigneur Jésus », et qui est traversé de bout en bout par tous les symboles de la liturgie juive et judéo-chrétienne du 1er siècle, comme pour dire que, au fond, dans la liturgie de l'Église, et tout spécialement dans la vigile de Pâques, le ciel est ouvert. C'est l'Eucharistie, c'est le ciel sur la terre. C'est la communion avec cette liturgie céleste qui se célèbre en présence de Dieu et de l'agneau, des anges et des saints. Et en même temps, elle est cette attente que tout s'accomplisse, que vienne ta grâce, que ce monde passe et que tu sois tout en tous. Et vous voyez, il faudrait se poser la question de savoir si ce soir, en allant à la vigile de Pâques, nous avons ce grand désir, nous aussi, de la venue glorieuse du Seigneur. Allô ? Est-ce que vous espérez que ce soir, pendant la vigile pascale, alors on ne sait pas très bien si ça sera à Notre-Dame de Lourdes ou si c'est à Saint-Pédis, mais que le Seigneur va venir dans sa gloire ? Oui ? Bon. Parce qu'une fois, j'étais dans une paroisse, c'était en Afrique, Et puis je me suis un petit peu lâché dans mon homélie. Et j'ai dit, écoutez, il faut évangéliser le monde entier, comme ça Israël pourra être illuminé et Jésus pourra venir dans sa gloire. Et à ce moment-là, le curé a pris le micro, a dit, non, ne vous inquiétez pas, il ne viendra pas ce soir. Alors là, je me suis dit, alors, qu'est-ce que c'est que ces chrétiens qui ont peur de Jésus? Si on est chrétien, c'est qu'on attend la venue du Christ dans sa gloire. Hein, je crois que s'il était déjà venu dans sa gloire, ça se verrait, non? Vous regardez la télévision de temps en temps? Bon. Donc, ça se saurait. Hein? Est-ce que vous trouvez que le monde va très, très, très bien? Trop bien même. Non? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des petits soucis, ici ou là? Bon. Eh bien, nous les chrétiens, nous portons l'espérance du monde. C'est nous. Nous savons que Jésus doit venir dans sa gloire. Nous connaissons le scénario du film. Nous connaissons déjà le résultat du match. Et nous l'attendons avec impatience. Et comment nous le préparons? Par notre désir, comme la Vierge Marie, et aussi par notre action, par l'évangélisation. C'est pourquoi c'est important l'évangélisation. C'est pas un petit plus décoratif dans notre vie chrétienne. L'évangélisation, c'est le moteur de l'histoire. Si Jésus n'est pas encore venu dans sa gloire, c'est parce qu'on n'a pas fini le boulot qu'il nous a confié en partant. Si le monde continue à tourner, si nos petits cœurs continuent à battre, c'est parce qu'il y a encore des gens évangélisés sur la terre. C'est vrai. C'est l'évangélisation qui est le moteur de l'histoire. Jésus nous a dit qu'une seule chose avant de partir, c'est de toutes les nations faites des disciples. Il ne nous a pas dit autre chose. Il ne nous a pas dit écrivez des livres sur l'évangélisation. Il ne nous a pas dit comment ? Bon. Non, il ne nous a pas dit écrivez des livres sur la manière de savoir comment les gens vont être sauvés quand ils n'ont pas été évangélisés. Ce n'est pas le problème. Il nous demande, nous, d'évangéliser. Le reste, ça lui appartient. Bon. Mais, vous voyez, c'est l'enjeu. Je ne sais pas si vous savez, mais le Concile Vatican II a été voulu par le pape Jean XXIII, Saint Jean XXIII, comme une Pentecôte. La Pentecôte des derniers temps, je pense. En tout cas, si on la met dans la perspective de ce qui a été dit à Grignon de Montfort, etc., c'est un peu ça. Et dans la mouvance de cette nouvelle Pentecôte conciliaire, les papes Paul VI, Jean-Paul II, puis tous les autres après, ont parlé de la nouvelle évangélisation. Nouvelle Pentecôte, nouvelle évangélisation. Et cette nouvelle évangélisation, Jean-Paul II nous l'a dit, et le pape François nous le redit aussi, elle est sous le signe de la miséricorde. Vous avez déjà entendu ce mot-là? D'accord. Miséricorde, d'abord dans nos actes, ensuite dans nos paroles, et finalement par nos prières et nos offrandes de nos vies. Et cette miséricorde, cette évangélisation, nouvelle évangélisation sous le signe de la miséricorde, elle est pour préparer la venue du monde, la venue du Christ dans la gloire. Ah, c'est ce qu'a dit Jean-Paul II quand il a confié le monde et le troisième millénaire à la divine miséricorde. Il a dit aussi dans son exhortation sur l'Asie que le troisième millénaire devait être le millénaire de l'évangélisation de l'Asie. Parce que le premier était celui de l'évangélisation de l'Europe, le deuxième de l'Amérique et de l'Afrique, le troisième devait être celui de l'Asie. Donc, c'est le temps de la miséricorde, c'est le temps de la nouvelle évangélisation, c'est aussi le temps de l'évangélisation de l'Asie. Donc il y a peut-être parmi vous des missionnaires qui sont appelés à partir en Asie par le désir. Par l'offrande, comme la petite Thérèse, patronne des missions, ou effectivement. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je pense que si, alors ça, c'est purement personnel ce que je dis là, mais que si on se préoccupe de l'évangélisation en Asie, c'est ça qui va préparer l'illumination d'Israël. Parce que, au fond, l'évangélisation de l'Asie ne peut se faire qu'à travers une reprise de conscience de le racinement juif de notre foi. Alors, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans un bouquin que le Père Paul va mettre en vente. Un prix modique. Donc, ce soir, nous allons espérer, nous allons veiller à la suite de nos frères juifs. Nous allons veiller dans la nuit, parce que Dieu a veillé, lui aussi, pour sauver son peuple de l'Égypte, pour nous sauver du péché et de la mort. Nous allons veiller, et nous allons veiller au nom de toute l'humanité. De toute l'humanité, qu'elle le sache ou non, est en attente d'être sauvée. En attente des cieux nouveaux, de la terre nouvelle, en attente de cette Jérusalem céleste où il n'y aura plus ni de pleurs, ni de larmes, ni de jalousie, ni de disputes. Il n'y aura plus que Dieu qui sera tout en tous. Et alors nous sommes tous comme des bambins, des petits enfants qui danseront en présence de Dieu et des anges. C'est pas beau ça? Vous savez ce qui fait, il y a une autre chose qui empêche que Jésus vienne dans sa gloire. Il y a deux choses qui empêchent. D'abord, c'est qu'on n'a pas fini le travail qu'il nous a confié, mais il y a une autre raison. C'est qu'on est trop sérieux. C'est-à-dire, quand on sera devenu vraiment des petits-enfants, il pourra venir. Pourquoi la Vierge, elle apparaît toujours à des petits-enfants? Vous n'avez pas remarqué? Dieu aime les enfants. Et au fond, être un enfant, ça prend toute la vie, devenir un enfant. Comme le vieux Nicodème qui est... Il veut voir Jésus, il est fatigué et tout. Il connaît tout, il a tout lu, il a lu tous les bouquins, il a suivi toutes les formations théologiques, les machins, les enseignements, les homélies, tout, tout, tout. Il va voir Jésus et puis il dit, bah alors, dis donc, t'es un rabbi toi, t'en connais des choses. Tu pourrais pas nous dire un peu du nouveau, parce que là, ah bah oui, il y a du nouveau, bah oui, ça il faut que je te dise, oui. En fait, ce que tu crois savoir, il faut que tu saches que tu ne le sais pas, il faut que tu acceptes de devenir le petit enfant que tu n'as jamais été. Et donc pour ça, de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Oui, c'est ça le petit enfant que nous sommes appelés à devenir. Dans le sein du Père, dans le sein de Marie, dans le sein de l'Église. L'accomplissement de notre baptême. Ça donne beaucoup d'espérance, non? Toi et pas. Un vieillard avec un cœur d'enfant, c'est magnifique, non? Comme Abraham. Bon. Bien, et donc, je crois que, voilà... Nous sommes dans cette grande vigile pascale qui va commencer bientôt. Alors je dirais, il nous reste quelques heures avant cette vigile. Eh bien, c'est peut-être de les vivre à la lumière du cantique des cantiques. Le samedi saint, c'est le temps où l'épouse cherche son époux dans la nuit. Mais c'est aussi le temps où les femmes, les saintes femmes préparent les aromates pour le corps de Jésus, et ce sera les premières à bénéficier de la résurrection. Donc c'est vraiment l'Église des femmes, là encore, de nouveau, qui est à l'honneur aujourd'hui, mais dans le sens où elles attendent l'époux, qu'elles le sachent ou qu'elles ne le sachent pas. Et donc par leur désir, de le voir, de le servir, de le toucher, de l'embaumer, bien quelque part, elles préparent sa résurrection. Alors nous aussi, que notre désir fasse venir Jésus ressuscité. Non seulement ce soir dans la vigile, mais dans sa venue dans la gloire. Qu'il puisse venir. Viens Seigneur Jésus. Maranatha. Que ce monde passe. Que vienne ta grâce. Et que tu sois tout en tous. Alors je vais m'arrêter là. Peut-être qu'on pourrait prier un peu la Vierge Marie, non? Alors, je ne sais pas si vous voulez des questions poser.